sommes-nous vraiment libres? Verdi, un grand compositeur de l'opéra Nabucco, avait une partie intitulée « Le cœur des Hébreux ». Nana Mouskouri l'a chantée avec une adaptation française sur les paroles de Pierre Delanneau et Claude Lemel. Laissez-moi vous citer les paroles de cette chanson interprétée par Nana Mouskouri, basée donc sur cet opéra de Giuseppe Verdi. « Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand tu trembles, je prie pour toi, liberté. Dans la joie ou les larmes, je t'aime. » Deuxième couplet dit ceci, « Souviens-toi des jours de ta misère. Mon pays, tes bateaux sont des galères. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Et quand tu es absente, j'espère. » Et ça termine, « Qui es-tu? Tradition ou bien réalité? Une idée révolutionnaire? Moi, je crois que tu es la seule vérité, la noblesse de notre humanité. Je comprends qu'on meurt pour toi, pour te défendre. » Alors, les Français, les Sud-Américains, les Américains, les Canadiens accordent une grande importance aux libertés de leur Constitution, que leur Constitution leur accorde. Liberté de quoi? Liberté d'expression, liberté de religion, liberté de s'assembler, liberté d'association, ainsi que le droit de voyager librement, que ce soit à l'intérieur même du pays ou même à l'étranger. Bien sûr, ces mêmes droits existent dans beaucoup d'autres pays qu'on appelle souvent dans le monde occidental les démocraties. Et donc, les gens, les peuples accordent une grande importance à la liberté. Lorsqu'on regarde la liberté à la lumière des Saintes Écritures, on se rend compte que le principe de liberté est quelque peu complexe. Et pourtant, l'histoire de l'homme commence avec une liberté qui tourne mal. Dans sa générosité, Dieu, comme vous le savez, avait dit à Adam, « Tu pourras manger. » Autrement dit, tu as cette liberté de manger de quoi? De tous les arbres du jardin. Il y avait une exception. Il y avait un interdit. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Donc, pleine liberté avec un interdit. Une restriction. Pourquoi? Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est dans, bien sûr, les paroles célèbres de Genèse 2, versets 16 à 17. Alors, dès le début, l'homme est libre, mais il en veut plus. Il veut faire à sa tête. Il veut se distinguer du cadre pourtant très large que Dieu lui a donné. Et bien sûr, il s'est engagé dans une voie qui allait apporter la mort au monde entier. Alors, sommes-nous vraiment libres? Où en sommes-nous par rapport, justement, à cette liberté qu'avait Adam et qu'il a mal utilisée? Et pourtant, Dieu va revenir en disant, « Je veux que mon peuple soit libre. » Il a choisi, comme vous savez, le peuple d'Israël, qui était en esclavage. Et il fait dire à Pharaon, à plusieurs reprises, en fait, 7 fois, dans le livre de l'Exode, il dit, « Laisse aller mon peuple. » Autrement dit, « Laisse-le libre. » Alors Dieu, justement, suite au refus de Pharaon, va faire sortir lui-même le pays hors d'Égypte, hors de la servitude, de l'esclavage. Et ça, il a fait, dit la parole de Dieu, d'une main puissante avec son bras étendu. Ça veut dire que c'était vraiment le projet de liberté que Dieu a lui-même accomplie. Mais cette liberté, qui est en fait une liberté nationale que Dieu a accordée à Israël, devient un portrait approprié éventuellement d'une liberté encore plus vaste que Dieu voulait accorder à l'ensemble de l'humanité par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. On nous dit justement dans la lettre aux Hébreux, on ne s'y reportera pas, mais je vais quand même faire allusion ici, que ce Jésus-Christ est digne encore d'une plus grande honneur que Moïse. Ça veut dire quoi? C'est que le projet de Dieu de sortir son peuple par la main de Moïse était juste un échantillon du désir de Dieu d'amener toute l'humanité à la grande liberté. Vous savez, l'homme, souvent, lorsqu'il devient puissant, va plutôt priver ses citoyens de liberté que vraiment lui accorder l'exercice de la liberté. Il y a toujours des pièges au sein des gouvernements des êtres humains. Dieu, par contre, est un dirigeant différent et c'était ça la leçon que Dieu désirait que son peuple apprenne. Liberté, mais à la manière divine. Et il s'est engagé, lui, à conduire son peuple dans l'apprentissage et l'exercice de cette liberté. Alors, il a institué, entre autres, à la sortie de l'Égypte et surtout à l'entrée de la Terre promise, un système de juges. Ces juges intervenaient seulement dans certaines situations où on avait besoin de rendre justement la justice, de prendre des décisions de partage. Alors, ça a été la période des juges en terre de Canaan, qui a duré environ de 1400 ans, 1400 avant Jésus-Christ, jusqu'à éventuellement la royauté en 1000 avant Jésus-Christ. À un moment donné, le peuple est mécontent. Il vient voir Samuel, entre autres, et qu'est-ce qu'il lui dit? Laissez-moi vous citer, cette fois-ci, 1 Samuel 8, versets 4 à 7. On est sous le règne de Samuel. Le règne, dans le sens, il exerce la justice. Il exerce aussi, en donnant certaines interprétations de la parole de Dieu, certaines applications au niveau de la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent dire à Samuel, les dirigeants? Les anciens, nous dit le verset 4, 1 Samuel 8, verset 4, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent. Donc, il y avait quand même un mouvement presque commun, là, solidaire. Et ils vinrent auprès de Samuel à Rama, où il demeurait, et lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, à cause de ça, autrement dit, établis sur nous un roi, comme dans les autres nations. » Il y a un problème avec cet énoncé. D'abord, il y a comme une espèce de sentiment qui est transmis qu'on ne croit pas vraiment que ce système de juge va être efficace parce qu'on voit bien que tes fils sont pas dans la même direction que toi, tu donnes. Mais voyez aussi quand même qu'il y a un problème, c'est qu'ils suggèrent eux-mêmes la solution, et même en fait, ils ne la suggèrent pas, ils l'exigent. Ils n'approchent pas seulement en disant « qu'est-ce qu'on peut faire? » ou « tes fils ne marchent pas, est-ce qu'il y a moyen de redresser la situation? » Pas du tout. Il y a déjà une solution qui est proposée et en fait exigée. Alors, Samuel a compris qu'au fond, on ne voulait pas de juge, on voulait d'un roi. Et c'est pour ça qu'il est dit au verset 6, « Samuel vit avec des plaisirs, qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. » Donc, le but est le même, c'était pour avoir de bons jugements, mais avec une autre façon de fonctionner. Et Samuel, lui, bien sûr, qui a été appointé par Dieu, dit « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Donc, il pria à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il reçoit comme réponse? « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. » Dieu, au fond, voyait le fond de la chose. Éventuellement, le peuple n'avait pas confiance que le système de Dieu, et même éventuellement ceux que Dieu avait appointés ou choisis, allaient appliquer la meilleure façon pour eux. Donc, ils ont mis en doute que Dieu intervenait dans leur vie, qu'il pouvait les conduire comme il se doit. C'est pour ça que le verset 8 dit « C'est moi qu'ils rejettent afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. » Autrement dit, le problème n'est pas d'hier. J'avais beau avoir un bon leader comme Moïse, ils ont toujours remis en question ceux que j'utilisais parce qu'au fond, ils voulaient me remettre en question. Écoute donc leur voix, donne-leur par contre des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. On ne voit pas que les juges avaient des exigences autres que celles de, bien sûr, délivrer ou livrer des actes de justice ou de jugement, parfois de donner certains ordres de la part de Dieu. Mais là, il y aurait un système qui serait un prix à payer aux hommes pour nommer eux-mêmes les rois. Alors voilà, c'est pour ça que Samuel retourne dans le peuple et là, il va donner les éléments que le peuple devra payer le coût de la royauté. Mais la royauté désignée par l'homme, la royauté autant que l'homme a décidé de l'instaurer. Il n'a pas attendu que Dieu le fasse lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va donner, par exemple, « Il les emploiera, vos fils et vos fils, à labourer ses terres. Il les emploiera pour récolter ses moissons à lui, au fond, à fabriquer ses armes de guerre. Ils utiliseront votre argent pour ses chars, pour ses projets, lui. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières. Autrement dit, ça va être un système qui va exiger beaucoup au peuple, qui va leur coûter quelque chose, et peut-être même qui pourrait faire en sorte que vous perdez, on pourrait dire, accès à la vie familiale jusqu'à un certain point. Il prendra la dîme du produit de vos semences, de vos vignes, et la donnera à qui? À ses serviteurs. Donc, il avait prévu qu'il y aurait une espèce de des fonctionnaires hein, qui rentreraient en fonction, que ça deviendrait probablement une assez grosse machine. Et bien sûr, il suffirait de comparer, selon le pays où vous êtes, la charge que l'État met sur vous à comparer, par exemple, justement, à la dîme. La dîme, c'est 10 %. Mais saviez-vous, je vais vous donner un exemple qui m'est familier, celle qu'on a au Québec. Par exemple, la charge moyenne globale du Québec, si par exemple notre revenu imposable est 60 000 $, ben notre taux moyen d'imposition sur le revenu se situe à environ 13,7 %. Mais en plus, il y a un taux marginal d'imposition qui fait monter le tout à 20,5 %. On ajoute d'autres taxes, et voilà que finalement, on se retrouve, selon certains calculs, à une dîme, si vous voulez, enfin une dîme au pluriel, de 35 à 38 % annuel. D'autres, ajoutons que le pays, que le Québec fait partie d'une nation, une confédération plus grande, et là, le taux monte à 43,5 %. Voyez-vous le fardeau hein, que, tranquillement, le gouvernement humain va imposer à son propre peuple, parce que l'être humain a décidé de faire les choses à sa vitesse, à sa façon. Mais il ajoute au verset 18, je suis toujours dans le premier livre de Samuel, je suis toujours au chapitre 8, mais cette fois-ci au verset 18. « Alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. » Autrement dit, Dieu va dire, écoutez, vous voulez faire l'exercice, faites l'exercice. Mais je n'interviendrai pas si vite que ça lorsque vous allez vous plaindre, parce que je veux que vous compreniez la leçon. Vous pensiez vous donner un gouvernement pour être plus libre, mais en fait, vous allez avoir certaines entraves. Après la mort de Samuel, même avant, il y a eu donc la monarchie. La monarchie, ça veut dire quoi? Un seul dirigeant, un roi. Ça n'a pas pris de temps. D'abord, le premier roi a dévié rapidement du plan de Dieu. Il a commencé même à créer des divisions dans le peuple, des jalousies. Ça a été suivi, oui, d'accord, d'un roi qui a été plus juste, David, qui lui-même a cédé le pouvoir à Salomon. Mais déjà sous Salomon, on voit vers la fin de son règne que les gens ont des corvées qui dépassent leur désir. Malgré que c'est pour des buts incroyables, même pour une certaine prospérité, les gens vont se plaindre en disant « c'est trop ». Et sous le fils de Salomon, il y a eu une révolte, en fait. 10 des 12 tribus se sont détachées de la royauté du fils de Salomon, qui s'appelle Roboam, pour fonder leur propre gouvernement. Bon, est-ce que ça marchait mieux au nord qu'au sud? La réponse, vous la lirez dans la Bible, et vous allez voir en fait qu'au nord, ça marchait encore de mal en pis. Mais qu'est-ce que la liberté, au fond, que Dieu nous propose? C'est ça la question. Est-ce qu'on veut notre liberté ou on veut celle que Dieu nous propose? Jésus-Christ, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la synagogue, dans le lieu d'assemblée où il s'assemblait depuis sa jeunesse, mais lorsqu'il a reçu le feu vert pour sa mission, Luc nous dit, l'auteur de l'Évangile selon Luc, va nous dire ceci, que lorsqu'il est rentré, il a cité au fond Ésaïe 61:1 en s'attribuant cette prophétie. Alors, Ésaïe 61:1 dit quoi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint, comme on oignait les prophètes, comme on oignait Samuel, comme on a oint Saül, David, Salomon, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alors, ça voulait dire qu'il y aurait des malheureux, mais que Dieu, lui, avait choisi son Messie. C'est le mot « oint », c'est en hébreu « Messiah », ça veut dire celui donc qui a reçu l'onction d'huile officielle de la part de Dieu. Il m'a envoyé, voilà la mission du Messie, il m'a envoyé aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté. La liberté de Dieu. La liberté de ceux qui comprennent qu'est-ce que c'est qu'être captif. Et aux prisonniers, la délivrance. Donc, liberté, délivrance, ça va ensemble. Captif, prisonnier, ce sont des synonymes complémentaires. Un peu plus tard, Jésus va déclarer, cette fois-ci on le retrouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, versets 32 et 36, ces paroles célèbres concernant la liberté. Jésus-Christ, au fond, annonce que le peuple de Dieu devait connaître la vérité et il dit, c'est la vérité qui vous affranchira. Alors, son auditoire, qui était composé de juifs même, je dirais, croyants jusqu'à un certain point parce qu'ils le suivaient, ils lui répondirent, « Mais nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous avons un passé de liberté. On connaît ça, la liberté. En fait, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. » Vous allez être d'accord avec moi que je pense qu'ils avaient oublié un peu leur histoire. Alors, il pose la question, « Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Alors Jésus va leur donner la réponse. En vérité, autrement dit, écoutez bien ce point. je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors voyez-vous, ils amènent sur un autre terrain. L'esclavage, autrement dit, n'est pas d'être esclave des hommes, seulement en tout cas, mais d'être esclave de ce que lui appelle le péché. Le péché, c'est-à-dire la déviation loin des façons de faire de Dieu. Le péché, c'est ne vouloir faire à sa façon, en souvent contournant la façon donnée dans les Saintes Écritures, révélée par Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il dit, l'esclave, par contre, il ajoute, ne demeure pas toujours dans la maison. Autrement dit, dans le grand plan de Dieu, ceux qui sont esclaves du péché ne pourront pas continuer ainsi. Il ajoute, mais le Fils y demeure toujours. Le Fils, bien sûr, c'est d'abord lui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais aussi tout fils que le Père céleste va adopté va amener dans sa maison. Alors, c'est le privilège, bien sûr, qu'ont les enfants de Dieu d'être considérés par le Père fils. Parce que le Père accorde, lui, la liberté que donne son fils Jésus-Christ. Et on apprend par Jésus-Christ et par les apôtres, par ceux qui ont poursuivi le travail de Jésus-Christ, que il y a quelque chose de meilleur que Dieu offre, meilleur même que ce que Dieu va offrir à Israël. Israël a été libéré de l'esclavage physique, a reçu un pays, ouais, ça c'est merveilleux, avec des promesses, avec des bénédictions. Alors, que reçoit donc l'enfant de Dieu? L'enfant de Dieu reçoit parfois des choses similaires au peuple de Dieu. Oui, il sera sous la protection de Dieu. Oui, il pourra développer sa vie, ses plans, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel que l'enfant de Dieu reçoit comme promesse, ce n'est pas seulement la vie maintenant, c'est la vie éternelle, la vie qui va se perpétuer dans l'éternité. Alors ça, ça fait partie du projet de Dieu de la grande liberté. La grande liberté, c'est de passer de ce monde physique à un corps spirituel, à une liberté spirituelle. Autrement dit, nous pouvons avoir les meilleures lois, vivre dans le pays le plus libre de la planète. La corruption viendra. Elle poussera les hommes à contourner la loi, même si elle est bonne, à feindre son observance. Ça peut être aussi à manipuler cette loi en sa propre faveur ou à faire en sorte qu'elle ne devienne même plus applicable. En passant, les pharisiens ont rendu ça tellement compliqué que les gens étaient épuisés et n'avaient plus la force, n'est-ce pas, de faire les choses essentielles que Dieu leur avait prescrites. C'était rendu compliqué. Et Jésus-Christ a dit, c'est pesant, n'est-ce pas? Et il a ajouté, mais moi, mon joug, il est léger, mon fardeau est doux, suivez-moi. Donc, il y a une liberté offerte par les hommes, il y a une liberté offerte par Dieu, et elle ne coïncide pas toujours, hein, loin de là. Alors, la vraie liberté, au fond, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, vient de la libération de mauvaises habitudes destructives qui sont définies par le mot péché ou transgression ou autres synonymes de malversation, d'abus et toutes ces choses qui font que l'être humain éventuellement dérape. L'apôtre Paul il dit le changement que Dieu exige sera tellement radical que je vais vous expliquer, dit-il, en quelques mots, ce qui se passe vraiment. C'est dans la lettre aux Romains, chapitre 6, versets 6 à 7, en parlant d'un nouveau mode de vie. Il dit, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Il y a eu un prix à payer. Et le prix à payer, ça a été notre vie. Ça a été nos désirs, nos passions, nos accomplissements même, je dirais. Dans quel but? Afin que le corps du péché fût détruit. Autrement dit, tout ce qui pouvait être rattaché au péché dans la vie concrète, ça disparaisse. Dans quel but? Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Or, celui qui est mort au péché est libre du péché. Alors, c'est intéressant de voir que Paul dit, ça vaut la peine de payer le prix. Le prix est énorme, semble-t-il, pour la plupart d'entre vous, c'est de cesser de faire les choses à votre façon. C'est une coupure dans notre façon de vivre. Alors, c'est radical. Ça vient avec des Écritures qui disent des paroles suivantes. Par exemple, la première lettre de Jean 3, 4 à 5, « Quiconque pêche transgresse la loi de Dieu, et le péché est la transgression de la loi. » Autrement dit, vous ne pouvez pas accomplir la loi parce que, il le dit ailleurs, vous n'en avez pas la force, vous avez besoin d'aide, mais surtout, il faut vouloir vous soumettre à Dieu. C'est-à-dire adopter la façon de penser et de faire de Dieu. Alors donc, les hommes parlent de liberté. Jésus-Christ, il dit, ne vous leurrez pas. Les hommes ne peuvent pas vraiment vous apporter la pleine liberté. Il dit en fait à certains leaders de son temps, vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter. Vous ne les touchez même pas vous-même. On dit, il y a des lois, mais vous arrangez pour faire ce que vous voulez en arrière, et le peuple, lui, porte le poids de mauvaises lois, souvent des lois qui sont utilisées contre eux pour les exploiter. Maintenant, frère, il y a un danger. Nous avons été appelés de la liberté. Paul, il va quand même dire précaution ici. Vous pourriez avoir tendance à ce que cela, je le dis dans mes mots, vous monte à la tête et vous fasse dévier au point que vous perdiez cette liberté. Parce qu'il a dit ceci, laissez-moi vous citer la lettre aux Galates 5, 13. Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. C'est pour ça notre amour de la liberté. Dieu canalise, autrement dit, ce désir de liberté dans une nouvelle façon de vivre. Il dit seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. C'est-à-dire, pour vivre en pensant que tous vos désirs vont être accomplis. Et que c'est vos désirs, en fait, qui priment surtout. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Quel appel! Et autrement dit, votre liberté, l'idée de ça, c'est que maintenant, vous êtes libre de décider de servir. Et qui vous allez servir? Les uns les autres. Je vais vous donner une famille et vous allez apprendre à servir de la bonne façon. Non pas exploiter, non pas être abusé, mais à servir pour cette liberté, pour amener les gens dans cette liberté. Maintenant, voyons rapidement six choses à lesquelles nous sommes appelés, six libertés, si vous voulez, dont nous jouissons en tant qu'enfants de Dieu. Il faut quand même apprécier ce que Dieu nous a donné. La première chose dont on a été libérés, bien sûr, c'est la culpabilité comme telle, qui souvent vient avec son poids de honte, plus ou moins justifié. La culpabilité, c'est dans un certain sens le fait que c'est vrai, nous avons commis des fautes. C'est vrai, nous avons blessé les autres. C'est vrai, on nous a blessés. C'est vrai, on ne sait pas comment fonctionner. On est dysfonctionnel, profondément. Nous sommes libérés de cette culpabilité parce qu'on peut avoir un nouveau départ. C'est pour ça que, le psalmiste au psaume 103 va dire, « Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. » C'est un mot ancien qui veut dire, au fond, « injustice ». Et là, il va montrer jusqu'à quel point on peut vraiment compter sur le fait qu'on a été pardonné par Dieu lorsqu'il dit, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. C'est-à-dire, autant l'Est est loin de l'Ouest, en fait, ils ne se rencontrent jamais, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alors, voyez-vous, il essaie de nous mettre une image que, oui, on a reçu la liberté de notre culpabilité et, je dirais parfois, du fardeau de honte que cela amène. Nous sommes donc libérés de l'impact que le péché a sur nos vies. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que nous sommes libérés d'épreuves. Ça ne veut pas dire non plus que nous sommes libérés des faits que nous avons, dans un sens, déclenchés par un mode de vie antérieur. Mais ça veut dire qu'on est libéré de ce fardeau devant Dieu d'être porteur des conséquences et surtout du poids de nos péchés. Dieu, autrement dit, dit ça va, et à partir de ce jour, concourir à votre bien. Avec le mal, je vais faire du bien. Deuxième liberté, c'est une liberté face aux rites, face aux règles et rituels créés par l'homme qui sont beaucoup plus lourds que ce que Dieu exige. Quand Jésus-Christ a dit « Mon fardeau est léger », Moïse a dit « La loi est bonne, elle est tout près de vous, elle est gravée au fond dans votre cœur, il suffit juste d'aller à la source et de la suivre. » Donc, liberté face aux rites, aux règles, aux rituels, ceux créés par l'homme. Et là, vous vous souvenez de cette parole de Jésus qui dit « Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Hypocrite, Isaïe a prophétisé de vous. Il a vu venir ça. Quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ça devient compliqué, vous savez, avec les êtres humains, éventuellement, de comprendre où on s'en va et comment on peut être libre, parce qu'au fond, ça nous emprisonne. Donc, libéré de toutes ces traditions qui sont contraires à la parole de Dieu. Troisième liberté. Liberté face à nos pulsions néfastes. Les psychologues ont découvert qu'il y a des forces en dans nous qui sont loin d'être constructives. Ils ont appelé ça le « id ». Le « cela ». Cela, c'est des pulsions que si on les suivait aveuglément, bon, on se retrouvait à faire des dégâts partout. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs aujourd'hui. Alors, mais la Bible nous dit, vous pouvez être libre de ça. Et en fait, vous êtes libre, vous les enfants de Dieu, de ça. Je vais vous donner la force de gérer ces pulsions. Il suffit de ne pas porter attention aux choses de ce monde, à vos désirs néfastes, et désirer plutôt, parce que c'est une question de désir, on ne peut pas annuler le désir, on peut seulement l'orienter. Désirer les choses d'en haut, c'est-à-dire les choses de l'esprit, les choses du futur, les choses de la liberté éternelle. Ça, c'est quand même intéressant, hein, qu'on a été libéré de la manipulation des désirs néfastes. Une autre chose qu'on a été libérés, une quatrième, nous avons été libérés de la peur de nous tromper. Ah oui, c'est que malgré tout ça, malgré que les gens savent et même parfois veulent s'égarer, il y a quand même cette peur, soit d'être pris en flagrant délit, ou même de se tromper au point qu'on ne retrouve pas son chemin ou qu'on se contredise, que les gens se moquent de nous, découvrent nos faiblesses, etc. La parole de Dieu dit, vous êtes libre de ça. Ce que les hommes pensent n'est pas important comparé à ce que moi, Dieu, votre Père, je pense. Parfois, les hommes vont vous accuser. Moi, je vais dire, vous êtes libre. Je vous trouve des enfants bien-aimés. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a été juste à pousser l'audace à dire dans la lettre aux Romains 8, versets 38 et 39, c'est un beau passage qu'on aime citer, mais prenez-le dans le sens qu'une fois que nous sommes libres, il va y avoir des oppositions, il va y avoir des forces qui vont essayer de vous remettre sous un certain joug, soit des hommes, soit de vous-même, soit de vos pulsions. Mais Paul dit ceci, remarquez qu'il va aller tout couvrir. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges qui sont plus puissants que nous en passant présentement, ni les dominations, hein, qui sont en fait c'est des autorités dans le monde spirituel, ni les choses présentes, c'est-à-dire même les problèmes qu'on a présentement, ni les choses à venir, c'est-à-dire les choses que vous craignez qui s'en viennent, là. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est de nous donner la liberté véritable, manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, ça couvre pas mal tout, hein? Ça veut dire que notre police d'assurance spirituelle, elle est vraiment complète. Cinquième liberté que nous avons, qui est bon d'apprécier, qui est un peu connexe, en fait, c'est liberté de la peur de la mort. Là aussi, les psychologues, entre autres, qui ont fait des études sérieuses, découvre que beaucoup de problèmes humains sont dus à des peurs. Et une de ses plus grandes peurs, c'est la mort. La peur de disparaître. Et on ajoute en plus à ça parfois la peur de tourments qui viendraient même après la mort. Ça s'en vient compliqué. Hein. Et c'est pour ça, Jésus-Christ dit, vous allez être libérés de la peur de la mort. C'est intéressant. Laissez-moi vous citer dans cet ordre d'idées-là la deuxième lettre aux Corinthiens, toujours par l'apôtre Paul, chapitre 5, versets 6 à 8. Regardez, lui qui a fait face à toutes sortes de situations, même très dangereuses et très douloureuses, dit ceci, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance. » C'est le contraire d'avoir la peur, ça. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, c'est-à-dire que présentement, on est, oui, vulnérable, on est même biodégradable, hein, c'est moi qui applique l'adjectif. Dans un sens, en étant dans le corps, nous sommes quand même loin du Seigneur. On n'est pas encore avec la vie éternelle, dans un corps éternel, un corps spirituel. Mais il dit... Ça ne nous empêche pas de marcher par la foi. La foi, c'est la confiance. On marche dans un état et une émotion, oui, parce que la foi est une partie émotionnelle, de confiance, qui amène aussi une paix en passant. Il dit, nous aimons mieux. Autrement dit, on n'a tellement pas peur de la mort qu'en fait, on fait presque la souhaiter. Nous aimerions mieux, en fait, si on nous offrait la chance, dire, ben, OK, tu as la chance, maintenant ta course est finie, tu quittes ton corps, tu rentres en repos, et à ce moment-là, tu attends la résurrection. Il dit, en fait, on préfère ça, afin de demeurer auprès du Seigneur. Hein, on sait très bien que ça va se produire au retour du Christ quand ceux qui dorment vont être amenés à la vie, ceux qui dorment en Christ, bien sûr, et que ceux qui sont vivants seront transformés en êtres spirituels. Donc, on voit très bien que la peur de la mort chez l'apôtre Paul a complètement disparu, au point, dans un sens, qu'il veut déjà pas être mort. C'est pas vraiment ça, mais c'est déjà traverser la mort pour se retrouver auprès de Christ à la résurrection. Alors, ça va. Et c'est pour ça que l'autre liberté que nous avons est en fait au quotidien. Quand on comprend ces grandes libertés, entre autres de la peur de la mort, et qu'on recherche ce que cela signifie, on a une liberté aussi dans le petit quotidien. La liberté d'être dégagé de nos inquiétudes et des soucis de cette vie. Mais vous comprenez quand même, c'est une question d'exercice un peu, là. D'appliquer les grandes pensées de la grande liberté en en voyant que ça s'applique au quotidien. C'est pour ça que Jésus-Christ dit avec assurance, lui aussi, « Ne vous inquiétez de rien. » Vous allez dire, « Mais voyons. » Ben écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ qui dit, « Ne vous inquiétez de rien, à rien, c'est ce qu'on vous dirait au Québec, à rien, absolument rien. » Mais il faut faire quelque chose quand même, c'est quoi? « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, et quand ça va mal, par des supplications même. » C'est-à-dire insister avec émotion, des supplications, mais n'oubliez pas quand même que, n'oubliez pas tout ce que vous avez reçu, des actions de grâce, la gratitude, des remerciements. Conséquence, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Autrement dit, c'est une paix qui va venir de la part de l'Esprit de Dieu, qui va venir directement du Père et de son Fils. Cette paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits et vos pensées, si vous voulez, en Jésus-Christ. Alors, cette confiance en Dieu, nous en avons l'invitation. C'est-à-dire, faire confiance à Dieu, oui, c'est un défi, mais c'est un défi qu'on peut relever au quotidien. Lorsque nous faisons confiance, nous pouvons être envahis par cette paix qui dépasse notre compréhension. Autrement dit, on ne peut pas la préparer, cette paix. On fait confiance, la paix de Dieu nous est envoyée un peu pour une récompense dans un sens, un soutien, quelque chose en fait que ça doit dépasser notre intelligence parce qu'on dit... Ah, je ne m'attendais pas même à recevoir cette paix à ce niveau-là dans l'épreuve que je vis dans mon quotidien. En conclusion, quand même, nous y arrivons. Lorsque nous retenons les leçons du passé, nous pouvons découvrir l'incroyable joie de la libération à travers une vie profondément enracinée en Jésus-Christ. Les leçons de la libération du peuple, entre autres, de Dieu, d'Israël, nous prépare à comprendre les leçons de notre propre libération, mais aussi quoi faire avec cette liberté. C'est alors que nous recevons ce fameux don de la véritable liberté. C'est une liberté pour chacun de nous individuellement. Ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un parcours de toute une vie. Notre appel est de vivre notre vie dans cette liberté au quotidien. Nous pouvons nous tourner vers Dieu, faire des choix, donc exercer notre liberté en fonction de notre engagement dans une relation avec lui. On s'engage à le consulter, on s'engage à chercher comment il pense, comment il agit. Et à ce moment-là, nous engageons avec tout notre cœur, toute notre âme dans cette direction. C'est total, c'est unique, c'est complet, c'est enfin la liberté.